Voici une question dont la réponse mettra beaucoup de joie dans le cœur des croyants. Quel est le sujet central du livre de l'Apocalypse? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire. Aujourd'hui même, à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je me souviens des premiers jours après ma conversion où on m'enseignait plein de choses concernant l'enlèvement de l'Église et le millénium. C'est donc avec joie que j'ai pu préparer quelques questions qu'on va poser à ce merveilleux livre de la Bible aujourd'hui. Alors les voici. Qui sont ceux qui chanteront un cantique nouveau pour Jésus au ciel? Ceux qui n'adorent pas Dieu sur la terre, pourront-ils l'adorer au ciel? Comment est-ce qu'on peut interpréter une prophétie biblique? Pourquoi Jésus mérite-t-il le statut de juge? Qu'est-ce qui va se passer sur la terre après l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ? Quel est le sujet central du livre de l'Apocalypse? Quels sont ceux qui n'auront pas à vivre la grande tribulation sur la terre? Cette grande tribulation arrivera-t-elle subitement? Demeurez à l'écoute, nos réponses s'en viennent. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il s'apprête à nous enseigner les Saintes Écritures. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à recevoir tout ce bon enseignement. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin qu'on soit vraiment attentifs à toutes les paroles que tu vas nous donner par la bouche de ton serviteur. Que cette parole puisse nous transformer, nous amener à vivre encore plus près de toi, à tout faire pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous poursuivons notre étude du 5e chapitre de l'Apocalypse. Une immense chorale céleste. Lisons Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. Et il chanta un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Tu es digne, car tu as été immolé. Ce n'est pas avec de vaines prétentions que l'agneau atteint son statut de maître du monde. C'est en se livrant lui-même, afin de payer la dette de nos péchés. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Il chante le cantique nouveau du sang répandu de Jésus-Christ dans les cieux. Pendant ce temps, ici-bas, nous retirons de nos livres de cantiques toute référence à ce sang répandu, car il ne plaît pas au goût du jour. Si le fait de chanter le sang répandu de Jésus offense votre sensibilité, ne vous en faites pas. Jésus ne vous forcera pas à chanter ce cantique au ciel, car il ne force personne à entrer dans son ciel. Mais tous ceux et celles qui iront au ciel chanteront ce cantique, car ils auront reconnu à quel point Jésus les a aimés. Voyez-vous, ce sang est aux yeux de Dieu le seul paiement acceptable de la dette du péché. La Bible est formelle sur ce point. Entre autres, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Revenons à l'Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. L'Église de Jésus-Christ, représentée par les 24 anciens, est maintenant au ciel. Ce n'est donc pas d'elle qu'il s'agit dans notre verset. Eux sont ceux qui seront sauvés sur la terre pendant la grande tribulation. Ceux-ci régneront sur la terre, car l'Église ne sera plus sur la terre, mais au ciel. Versets 11 et 12. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Dans l'Antiquité, une myriade représentait le nombre 10 000 et même un nombre illimité. L'attention de l'apôtre Jean a d'abord été attirée par les êtres vivants et les anciens autour du trône. Ensuite, son champ de vision et d'audition s'élargit et il prend conscience que ces derniers sont accompagnés dans leur cantique par un nombre incalculable d'anges. Les formes intelligentes créées par Dieu le glorifient. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'ils iront au ciel même s'ils ne pensent presque jamais à Dieu et que l'idée de l'adorer ne leur passe même pas par la tête. Je me suis toujours demandé pourquoi ils voudraient aller au ciel afin d'adorer Dieu pour l'éternité s'ils ne sont pas capables de l'adorer ici-bas pour un court temps. L'adoration universelle du souverain sauveur. Versets 13 et 14. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Toute créature animée et créée par Dieu, autant sur la terre que dans les cieux, se joint alors à ce grandiose déploiement d'adoration. Même les animaux sur la terre et les poissons dans la mer se joignent à cette vaste louange. Les êtres vivants ajoutent leur amen, et l'Église se prosterne dans une silencieuse adoration. Dans la Bible, le concert de louanges donné par les anges aux bergers à la naissance de Jésus nous donne une idée de cette merveilleuse scène. Et certaines pièces musicales, comme la fin du Messie de Handel, nous donnent un avant-goût de cette glorieuse scène dont l'Église sera témoin au ciel. Mais dès maintenant, nous pouvons tous glorifier, honorer et adorer notre Seigneur Jésus-Christ, car il en est digne. Et si vous n'en avez pas l'habitude, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Avant de commencer l'étude du 6e chapitre de l'Apocalypse, il serait opportun de résumer la situation jusqu'ici, principalement pour le bénéfice de nos nouveaux auditeurs. Ce résumé sera forcément incomplet, car puisque la Bible reste remarquablement cohérente de la Genèse à l'Apocalypse, il nous faudrait recommencer depuis le début. Contentons-nous de reprendre le fil à partir du chapitre 4. Verset 1. L'apôtre Jean est saisi par l'Esprit de Dieu et il est transporté au ciel. Il y voit alors le spectacle stupéfiant de l'avenir de l'humanité. L'Église, c'est-à-dire l'assemblée des véritables croyants, est alors élevée de terre et se retrouve au ciel sans passer par la mort physique. Tous les croyants vivants encore à cette époque disparaissent au même moment, en un clin d'œil, de la surface de la terre. Une fois rendue au ciel, l'Église n'est plus reconnue sous ce nom, mais elle en prend d'autres. Elle est d'abord représentée par 24 vieillards qui adorent leur Sauveur et Seigneur. Pendant ce temps, sur la terre, l'Église n'est plus mentionnée, et les hommes, qui y demeurent encore, doivent passer par la sombre période de la grande tribulation. L'Apocalypse est un livre prophétique, et nous devons suivre la règle d'or de l'interprétation prophétique, mentionnée dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. En d'autres mots, une prophétie biblique ne peut pas seulement être interprétée par elle-même ou à l'aide de sources extra-bibliques, mais elle doit d'abord l'être en fonction du reste de la Bible. Rappelons un autre élément essentiel pour la compréhension du livre de l'Apocalypse. L'auteur lui-même nous donne le déroulement des opérations au chapitre 1, verset 19. « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Ce qu'il a vu au passé est la glorieuse vision du Christ glorifié en tant que souverain sacrificateur au milieu des chandeliers. Ce qui est fait partie de son présent. » Ce sont les sept églises qui représentent son expérience totale sur la terre depuis la Pentecôte, il y a environ 2000 ans, jusqu'à son enlèvement, quelque part dans notre propre futur. Ce qui doit arriver ensuite fait partie de son futur et de notre futur. Cette section a commencé au début du chapitre 4. La brisure entre présent et futur est clairement marquée par la répétition dans le même verset au début du chapitre de l'expression « meta tota », qui signifie « après ces choses », c'est-à-dire « après le temps de l'Église sur la terre ». Un voyage dans l'espace et le temps. Pendant les chapitres 4 et 5, nous accompagnons l'apôtre Jean lors de son voyage. Au cours de ce voyage, il ne se déplace pas seulement dans l'espace, c'est-à-dire dans le ciel, mais également dans le temps, c'est-à-dire dans le futur. Il voit d'abord un trône, et ensuite le Seigneur Jésus, sous le double aspect d'un agneau doux et d'un puissant lion. Lui seul est digne d'ouvrir le livre aux sept sceaux, qui est le titre de propriété de la terre. Car le Seigneur Jésus est le seul à pouvoir juger cette terre. Il mérite ce statut de juge, premièrement, parce qu'il est fils de Dieu et lui-même le Dieu fait chair, mais également à cause de ce qu'il a accompli. Il a créé cette terre, et nous avons vu qu'il est adoré dans les cieux en tant que créateur. De plus, il l'a racheté par son sang. Ceux qui lui appartiennent sont donc délivrés de la malédiction du péché, et de sa conséquence, c'est-à-dire la mort. Après avoir suivi l'Église au ciel, dans les chapitres 4 et 5, nous revenons ensuite sur la terre, mais toujours après l'enlèvement de l'Église. Que se passe-t-il donc sur la terre après le départ de l'Église au ciel? La réponse est simple. La grande tribulation fait irruption sur la terre, et c'est là un des sujets principaux des chapitres 6 à 18. À partir du chapitre 6 jusqu'au premier verset du chapitre 8, le livre aux sept sceaux est ouvert, ce qui déclenche la période de la grande tribulation. Le Seigneur Jésus brise les sceaux, et les quatre cavaliers de l'Apocalypse répandent le malheur sur toute la terre. Nous verrons les martyrs morts pendant cette période, et l'avènement du jour de la colère. Dans une séquence ordonnée, le septième sceau s'ouvre sur la scène des sept trompettes, que nous verrons en détail à partir du chapitre 8, verset 2, jusqu'à la fin du chapitre 11. La septième trompette nous présente sept personnages hors du commun pendant les chapitres 12 et 13. La bête, sortie des eaux, laisse ensuite sa place aux sept coupes de colère aux chapitres 15 et 16. Et la dernière coupe précède le jugement de Babylone qui met fin à la période de la grande tribulation. Nous verrons cela au chapitre 17 et 18. Vient ensuite le retour de Jésus-Christ sur la terre. En passant, on note avec intérêt que Babylone est l'objet du premier et du dernier jugement de Dieu. Au temps de la tour de Babel, relaté dans le livre de la Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9, l'homme avait organisé sa première action concertée contre Dieu. Et Babylone représente également la dernière rébellion de l'homme contre Dieu, autant d'un point de vue politique dans Apocalypse chapitre 17 que religieux dans Apocalypse chapitre 18. Cette période met fin aux prétentions de contrôle des hommes sur la terre. Jésus-Christ, le sujet central. Rappelons-nous toujours que la figure centrale de notre passage est celui qui est digne d'ouvrir le livre. À ce moment, il dirige toutes choses. Comme nous l'avons vu au début, le sujet principal de l'Apocalypse n'est pas les catastrophes qui frapperont la terre, mais la révélation de Jésus-Christ. Il ne marche plus parmi les chandeliers qui représentent les églises, car elles ne sont plus sur la terre à ce moment. Il n'est plus le souverain sacrificateur agissant en tant qu'intercesseur auprès du Père. Il accomplit la volonté de Dieu sur la terre en ouvrant les sceaux du livre. Tous les jugements de la grande tribulation viennent de l'ouverture des sceaux. Cette action suscite les trompettes, les personnes et les coupes de colère. Le signal de cette grande tribulation vient des cieux. Jésus-Christ dirige l'ensemble des opérations. C'est pourquoi il est écrit, dans le psaume 2, verset 9, « Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Ce jugement peut paraître un peu sévère, mais comment Dieu peut-il mater la rébellion des hommes sur cette terre? n'avons-nous pas amplement prouvé que nous ne possédions pas la sagesse pour assumer nous-mêmes notre propre destin? Quelle suggestion pouvez-vous faire au Seigneur? Comment devrait-il assumer son autorité? S'il revenait comme il l'a fait il y a presque 2000 ans, dans l'amour et l'humilité, pensez-vous que les dirigeants de ce monde, à Moscou, Washington, Londres ou Paris, remettraient de bon gré leur pouvoir entre ses mains? Aucun chef politique et aucun parti politique n'est le moindrement intéressé à laisser Jésus-Christ accéder à son trône. Ils sont bien plus préoccupés à satisfaire leur propre ambition personnelle. Dieu n'a-t-il pas été suffisamment patient envers l'orgueil humain? Or, Jésus-Christ est le seul être digne de régner sur le monde. Et comment exercera-t-il ce pouvoir? Il a essayé par la douceur depuis presque 20 siècles. Mais les hommes se sont endurcis dans leur mépris au point de remettre en question son existence même. Dieu est patient, mais il n'est pas bonasse. Et trop d'hommes ont pris sa bonté pour de la faiblesse. Le jugement de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il prendra le contrôle des opérations comme il l'a décrit dans notre psaume. Et nous verrons dans la suite du livre de l'Apocalypse comment il jugera la terre. À mon avis, son Église, elle, n'aura pas à vivre cette sombre période. Oh, ce n'est pas que les croyants méritent d'être épargnés. Mais, bien que pécheurs, ils ont été sauvés par la grâce de Dieu. Et seuls ceux et celles qui rejettent la grâce de Dieu auront à supporter ce temps d'intense épreuve. Depuis un siècle, la multiplication des outils de communication de masse, comme la radio, la télévision et l'Internet, ont permis de répandre l'Évangile aux quatre coins du monde. Et au jour du jugement, chacun devra assumer la décision qu'il ou elle aura prise en entendant cet Évangile. Nous avons vu, au chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse, les préparatifs pour le jugement à venir. Plus précisément, nous avons vu au chapitre 4 le trône du Dieu trinitaire et au chapitre 5 le livre aux sept sceaux et le fait que Jésus-Christ était le seul à être digne de l'ouvrir. Certains facteurs détermineront l'intensité et la férocité de la grande tribulation. Premièrement, le Saint-Esprit n'imposera plus aucune limite au mal. Il ne quittera pas le monde. Il était dans ce monde avant la Pentecôte, mais à partir de ce jour, il a exercé un nouveau ministère. Il a intégré les croyants dans le corps de Christ. Il est venu habiter en eux, et il les a remplis de sa grâce, et il les a conduits et dirigés dans ce monde. Mais un jour, il prendra son Église et l'enlèvera du milieu du monde, mais lui-même restera dans le monde. Par contre, il n'imposera plus aucune limite au mal pendant cette période. En d'autres mots, l'homme pourra alors laisser libre cours à ses désirs sous la direction de Satan. Et pour cette raison, je ne veux surtout pas être encore là quand ces choses arriveront. Deuxièmement, la véritable Église est le sel de la terre et la lumière du monde. Elle exercera peu d'influence sur ce monde aujourd'hui, mais quand elle ne sera plus là, elle n'en aura plus du tout. Troisièmement, Satan sait qu'il lui reste peu de temps, et il profitera de tout ce temps pour laisser libre cours à sa haine pour l'humanité. Il profitera pleinement de la liberté que le Seigneur lui donne pendant ce court temps. Quatrièmement, les méchants seront eux aussi libres d'accomplir leurs mauvais desseins, et le plus méchant d'entre eux, l'Antéchrist, pourra alors devenir le chef du monde pendant une courte période de temps. Il est fort possible que la tendance actuelle à la mondialisation favorise ce plan. Cinquièmement, Dieu jugera directement le monde. Au verset 17, nous pouvons lire « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Un processus graduel. Je ne crois pas que la grande tribulation arrivera subitement comme une tornade. L'ouverture des sceaux du livre s'effectue d'une manière graduelle, logique et chronologique. Ils sont ouverts un à la fois. Je l'ai dit et je le répète. À partir du chapitre 4, Le livre de l'Apocalypse décrit une période future. Présentement, nous vivons au temps des choses qui sont. Pour reprendre l'expression du chapitre 1, verset 19, l'Église de Jésus-Christ se trouve encore sur la terre. En conséquence, nous ne pouvons pas tenter d'intégrer aucun des sceaux, des trompettes, des coupes ou des personnages que nous verrons plus tard dans l'époque actuelle. Plusieurs signes peuvent effectivement donner à penser que nous nous approchons à grands pas de ce temps, mais nous n'y sommes pas encore. Quelques auteurs essaient d'utiliser l'insécurité générale actuelle pour vendre leurs livres. Leur message est que nous vivons déjà dans cette période de grande tribulation. Mais ce n'est pas le message de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. À partir du chapitre 4, l'action que nous voyons sur la terre se déroule dans le futur. Comme nous l'avons vu, la section de l'Apocalypse qui parlait des sept églises pouvait être identifiée à des périodes historiques. Mais nous ne pouvons pas faire la même chose avec ce qui suit. Ici, nous pouvons vraiment distinguer les deux principaux systèmes d'interprétation des prophéties de l'Apocalypse. Les points de vue futuristes et historiques. La théorie historique prend la position suivante. L'Apocalypse est un livre historique, et tout son contenu fait partie de notre histoire. Or, plusieurs de ceux qui maintiennent ce point de vue sont obligés d'admettre qu'à partir du chapitre 6, ou un peu plus tard, les événements décrits font partie de notre avenir. La raison est simple. Il n'existe aucun endroit dans l'histoire de l'humanité où ces événements trouvent leur place. Et ceux qui essaient de le faire ne sont pas d'accord entre eux. On trouve une cinquantaine de systèmes d'interprétation différents selon le point de vue historique. Si vous voulez mon avis, au moins 49 d'entre eux sont dans l'erreur. Prenez par exemple Apocalypse chapitre 20, où il est écrit que Satan est jeté pendant 1000 ans dans un abîme sans fond. Écoutez bien le verset 3. « Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ceux qui nient l'existence d'un millénium futur prétendent que tout cela a déjà eu lieu. Et, quand on leur demande d'expliquer l'activité présente de Satan dans le monde, ils répondent que Dieu lui a donné beaucoup de cordes. C'est le moins que l'on puisse dire, car avec cette longueur de cordes, Satan peut aller présentement où il veut dans le monde. Personnellement, je ne vois pas comment ils peuvent parvenir à concilier le message de la Bible avec leur interprétation. Si Satan est présentement dans un abîme fermé et scellé, il y a sûrement des fuites quelque part. Permettez-moi de vous affirmer que l'auteur de l'Apocalypse présente clairement ces événements comme faisant partie de notre avenir. À partir du chapitre 4 jusqu'à la fin du chapitre 20, nous voyons une description d'événements futurs. Le livre de l'Apocalypse suit un ordre logique et chronologique. Ces événements font partie de notre futur, car on ne peut pas les faire cadrer dans les événements historiques passés ou même présents. En ce moment, l'activité du Saint-Esprit s'oppose à celle de Satan, mais on ne peut certainement pas affirmer que ce dernier ne peut plus rien faire. Oui, chers amis, Satan est toujours en train de mettre des bâtons dans les roues. Il cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Mais nous connaissons la fin de cette histoire. Dieu est victorieux. Et toi, cher ami, de quel côté te trouves-tu? Du côté de l'ennemi ou du côté de Dieu? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, les versets 1 à 8. À vous tous, une bonne et agréable lecture.
Merci, Régent. Au cours de l'enseignement d'aujourd'hui, tu as mentionné une chose bien triste. Tu as dit que de nos jours, ici-bas, nous retirons de nos livres de cantiques toute référence au sang de Jésus qui a été répandu, parce que ce sujet ne plaît pas au goût du jour. Et pourtant, mes amis, sans le sang répandu de Jésus, il n'y aurait personne qui pourrait se mériter une place au ciel. puisqu'on est tous des pécheurs, selon ce que Paul nous exprime dans le troisième chapitre de son Épître aux Romains au verset 23. Donc, sans le sang de Jésus, Régent et moi n'aurions même pas la joie aujourd'hui de nous adresser à vous avec l'assurance de vous dire la vérité, puisque Jésus lui-même est la vérité. Mais c'est avec une joie débordante que je peux lire de nouveau les deux premiers versets que Régent nous a cités aujourd'hui dans le cinquième chapitre de l'Apocalypse. Ce sont les versets 9 et 10. Aimeriez-vous les lire avec moi? Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Hey, mes amis, c'est de Jésus qu'il parle et de nous qui croyons en lui. Quelle grâce Dieu nous a faite! C'est pourquoi, mon frère, ma sœur en Jésus-Christ, j'aimerais t'encourager, d'ici à ce que cette terre entre dans le millénium, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux qui t'entourent. Après ça, il va être trop tard, parce que, selon ce que Régent nous a enseigné aujourd'hui, nous, les croyants, aurons quitté cette terre. Et toi, mon ami, toi qui entends parler de Jésus par des amis ou par nos émissions de radio et de télé, toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme sauveur et comme maître de ta vie, j'aimerais t'encourager à laisser tomber toutes les résistances qui peuvent t'entourer, telles que la pensée de ce que les gens vont dire de toi parce que tu seras devenu un chrétien, une chrétienne, ou bien la pensée que tu devras cesser certaines pratiques de ta vie. Pense plutôt à ce que tu vas recevoir en devenant un enfant de Dieu. Jésus lui-même a dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Quel cadeau, mon ami! Tu n'as qu'à placer ta confiance en Jésus seul et tu seras certain d'avoir la vie éternelle. Et tu seras certain par le fait même qu'à ta mort ou au jour de l'enlèvement de l'Église, tu seras avec Dieu dans la joie et dans la paix pour l'éternité. Alors je t'invite, mon ami, ou plutôt Jésus t'invite par ma voix, à le recevoir comme sauveur et Seigneur. Il veut te sauver du châtiment éternel qu'on mérite tous pour nos péchés. D'ailleurs, il a reçu notre condamnation sur lui quand il est mort sur la croix. Et il veut aussi être ton Seigneur, ton Maître. Alors, mon ami, avoue que sans Dieu, ta vie, qu'elle soit intéressante ou non, ne mènera qu'au châtiment éternel, loin de la face de Dieu. Alors, tourne-toi donc vers Jésus. Et demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il a dit lui-même, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Mon ami, saisis cette vie.
Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.